Vous êtes sur RTL.
Eric est en ligne avec nous. Eric, bonjour.
Eric, oui, bonjour.
Eric, c'est son papa, écoutez bien, qui se retrouve avec un virement qu'il n'a jamais fait. D'ailleurs, votre papa, Eric, ne sait pas faire un virement.
Mon papa n'a jamais fait de virement de sa vie. Il a 88 ans, il ne sait même pas comment on fait.
Exactement. Il y a un virement qui est parti. La banque lui dit, si, c'est votre père, etc. On s'en occupe, vous vous en doutez.
Ah bah, prenez les choses en main.
Allez, merci à toi, Yves Calvi. Et à demain avec Vianney, alors.
Demain avec Vianney.
Merci.
Dans une version moins orientale.
Demandez-lui quand même de ma part demain. Il le fera, j'en suis sûr. Allez, c'est parti. Pour aider Eric et tous ceux qui vont passer dans l'émission ce matin, que la force soit avec nous. Nous avons à nos côtés notre avocate au barreau de Paris, Blanche de Grandvilliers, qui est là. Bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Il y a Charlotte, il y a Céline, il y a JB. Bonjour les amis.
Bonjour.
Cette émission est dirigée par notre rédacteur en chef, Alain Hazard. Mise en onde par Xavier Kassovitch. Voici le 9h30, 11h30 d'RTL. Et bien sûr, nous sommes en direct. Et bien sûr, il y a un négociateur aujourd'hui qui va nous aider. Mesdames et messieurs, le seul, le grand, l'unique, Bernard Sabat.
Aïe, aïe, Bernard.
Qui va bien sûr nous épater, j'en suis sûr, encore aujourd'hui. Vous pouvez participer à l'émission et pour cela, il vous suffit de téléphoner.
T'as une histoire pas très marrante, un litige un peu compliqué. De 9h30 à 11h30, appelle Julien Courbet.
Charlotte, vous rappelez le numéro, mais pas avec la bouche en cul de poule comme hier. Hein.
Le 32-10, 50 ouais. centimes d'euros la minute.
Ou bien
Julien Courbet.
Le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il va y avoir le confinement. Donc profitez pour gagner de l'argent, pour commander des trucs pendant votre confinement. L'alerte peut arriver à n'importe quel moment. Allez, c'est parti. Nous allons maintenant accueillir Eric. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Eric, rebonjour.
Oui, bonjour.
Eric, vous êtes, je crois, du côté de Paris. Je ne sais pas si vous avez fait une pause dans la capitale avec le camping-car, Céline, parce que c'était votre point de départ quand même au début, non ?
C'était mon point de départ, mais je vous avoue que j'en ai profité pour changer les pneus, pour refaire le niveau d'huile. J'ai pas vraiment eu le temps de visiter la capitale ce jour-là.
Faites attention aux phrases à double sens vous concernant. Quand vous dites j'en ai profité pour changer les pneus, ça pourrait être très mal interprété. S'il vous plaît, Céline, vous êtes encore très jeune, vous n'avez pas besoin d'avoir recours à ce genre de choses. Eric, c'est avec vous que je parle maintenant, car vous nous appelez pour un litige qui concerne vos parents. Ils ont 88 et 86 ans et le 24 juillet dernier, comme tous les mois, votre père consulte son relevé de compte bancaire qu'il reçoit par voie postale. Et là, il est abasourdi. Il découvre un virement de 2500 euros. Vers où, Eric, très exactement ?
Alors, vers un compte, une SCI, dans un compte en Angleterre, avec une société immatriculée en France, mais avec un compte en Angleterre.
Il ne sait pas du tout à quoi ça correspond. Il n'a jamais ajouté le fameux IBAN. D'ailleurs, mettre, ça permettra de la chauffer un petit peu, parce qu'il faut toujours une mise en route, comme sur un diesel. Maître Grandvilliers, un IBAN, pouvez-vous l'expliquer aux auditeurs ?
Eh bien, un IBAN, c'est un numéro qui correspond à un compte et qui permet de faire un virement.
Alors, il ne sait pas de quoi il s'agit et il a été visiblement victime d'un hacker qui a piraté son compte, a ajouté un compte bénéficiaire étranger puis procédé au virement. Il se souvient alors avoir reçu le 7 juillet dernier, soit le lendemain du virement frauduleux, un drôle de courrier. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, absolument. Il reçoit un courrier qui lui demande de changer son code de sécurité sur le système de sécurité de validation pour les comptes en ligne. Il ne comprend pas à quoi ça correspond puisqu'il n'a pas encore l'information que son compte a été piraté. Mais visiblement, la banque réagit tout de suite et en ayant eu après le service pôle gestion fraude de cette banque qui m'a informé qu'effectivement, ils avaient vu l'argent partir, qu'il n'avait pas pris les précautions et qu'il n'avait pas eu le temps de leur rappeler le virement et donc l'argent était déjà transféré. J'imagine que cette lettre du lendemain correspond exactement à une situation que la banque a découverte un peu trop tard, n'a pas fait valider par mon père la création d'un IBAN qui plus est en Angleterre. Moi, sur ma banque, je peux même pas créer un IBAN tout seul en Angleterre, il faut que je passe par mon conseiller. Donc oui, il découvre ça, ensuite les chèques sont passés ou quelques-uns. Donc évidemment, mes parents qui ont des petits revenus, une petite retraite, se retrouvent avec, sans le savoir, puisque le relevé est arrivé beaucoup plus tard, sans le savoir, ils se retrouvent à découvert, avec des frais, bien sûr, ensuite sur un compte à découvert, sur les opérations. Bon, on n'est plus à 10 euros près, là.
Non, mais Eric, on sait qu'il y en a, on va demander à Céline qui s'est occupée de ça. Céline, il y en a pour combien ? Les pauvres sont maintenant débités de combien ?
2500 euros, sans compter les frais, effectivement, dont nous parle Eric à l'instant.
Alors Céline, est-ce que vous avez d'autres informations à nous donner sur ce dossier avant qu'on entre dans le vif du sujet ?
Alors, Eric a fait énormément de démarches pour tenter de recouvrer ces sommes. Il a notamment écrit évidemment à la banque et la banque lui répond le 15 septembre dernier dans un courrier que non, ils ne vont pas rembourser ces 2500 euros parce qu'il y aurait eu une négligence de la part des parents d'Eric. On rappelle que le papa a 88 ans, qu'il n'a jamais fait de virement, il ne sait pas comment ça marche, il ne sait pas aller sur internet, sur son compte bancaire pour rentrer des codes. Donc on lui dit écoutez, c'est bien lui pourtant qui a rentré ses codes, le virement est parti de son compte, nous on ne va rien faire. Et pour autant, à la fin du courrier, on lui indique que tout de même, la banque a tenté de recouvrer les sommes auprès de l'autre banque qui a reçu les fonds, mais ils n'ont pas réussi. Donc on ne comprend pas. On vous dit, on ne vous rembourse pas, mais on fait quand même la démarche.
Bien, nous allons voir les conséquences tout de suite. Charlotte, s'il vous plaît.
Eh bien, c'est quand même 2 500 euros pour deux personnes qui sont à la retraite et qui ont une retraite modeste. Ça les met forcément dans une situation très inconfortable.
Nous avons en ligne un nouveau venu dans notre équipe. Il s'agit de Sébastien Allaire. Vous êtes expert en litige bancaire et président de l'association Banque Info Recours. Bonjour, monsieur Allaire.
Alors, bonjour à toute l'équipe. Le litige de monsieur est malheureusement très courant, hein.
D'accord. Alors, est-ce qu'il est dans son bon droit ? Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, puisque je vais appeler la banque dans quelques instants. Est-ce que vous avez, vous qui traitez ça au quotidien pour pas mal d'usagers bancaires, on est bien d'accord que c'était à la banque qui aurait dû protéger, effectivement, son compte par rapport au hacker ?
Alors oui, il y a plusieurs points. Il y a déjà l'article L133-18. Donc, dès que le débiteur, l'usager, fait opposition à un virement qu'il prétend ne pas avoir fait, sauf preuve du contraire, la banque doit rembourser.
D'accord. Maître Blanche Grandvilliers, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire de plus ?
Oui, on ajoute, Julien, que ce fameux article L133-18 prévoit que la banque doit rembourser immédiatement, oui. Julien, le mot interpelle, et elle doit rembourser également les agios qui ont été causés par cette arnaque. Et là, on voit qu'il y en a dans ce dossier.
Allez, c'est parti pour les appels téléphoniques. Tout est prêt chez vous, Bernard Sabat, Céline, tour de contrôle. Nous avons plusieurs appels à préparer.
Nous avons plusieurs numéros pour joindre la banque. Et si vous me permettez, j'ai un petit détail à ajouter en plus.
Eh bien, je vous le permettrai, mais dans quelques instants, si vous me le permettez moi-même. Puisqu'on est dans Radio, je me permets. Est-ce que vous me permettez ? Je le permets, non, je ne le permets pas. Bernard, si vous me le permettez, dans quelques instants, vous interviendrez.
Comme vous voulez.
D'accord. Alors, Bernard Sabat, je vous le rappelle, est le seul être humain à posséder trois langues. Malheureusement, oui. Il n'arrive pas à les dissocier les unes des autres et parfois elles se mélangent. Dans une seconde sur l'antenne d'RTL, ça fait rêver trois langues. Hein.
Oui.
Alors, de quoi s'agira-t-il ?
On va revenir sur l'affaire des 33 copropriétaires qui attendent le paiement de leur loyer et le renouvellement de leur bail depuis des mois.
C'est l'État qui ne paie pas les loyers. A tout de suite sur RTL. Bonne journée.
RTL.
En direct sur RTL entre 9h30 et 11h30 sur un cas bancaire qui peut arriver à n'importe qui, et je le dis sous couvert des journalistes, qui arrive de plus en plus dans les mails que vous nous envoyez des hackers qui viennent pirater votre compte, Charlotte.
Eric est sur RTL pour son père de 88 ans. Quelqu'un a fait un virement à son insu d'un montant de 2500 euros via Internet. Ça ne peut pas être lui parce qu'il ne sait même pas se servir d'Internet et pourtant sa banque refuse de le rembourser.
Céline m'a gentiment demandé une prise de parole que je n'ai aucune intention de lui refuser, ayant quelques visées sur elle. Si je commence à la brimer dès maintenant, je perds toute chance. Alors allez-y ma Céline.
Ce que je voulais vous dire, c'est que ce compte dont on parle dans cette banque n'est pas le compte principal des parents de notre auditeur. C'est un compte en fait qui sert à verser quelques étrennes, quelques économies. Donc en général, il y a autour de 400 à 500 euros sur son compte. Si la banque avait fait vraiment son boulot, elle aurait vu qu'un virement de 2500 euros qui part à l'étranger sur un compte qui n'en contient que 400 ou 500, là il y avait un problème. Il y a eu une négligence pour moi de la banque.
Une intervention de Céline. Et qu'est-ce qu'on dit à Céline ?
Bravo Céline !
Bien sûr, c'est magnifique. Alors, il y a une autre information qu'il faut absolument donner avant de lancer l'appel. C'est ce courrier du 7 juillet, Blanche de Grandvilliers, avocate.
Oui, tout à fait. Donc, non seulement il faut rappeler que c'est à la banque qui a la charge de la preuve, et elle doit prouver quoi ? Elle doit prouver que l'auditeur n'a pas satisfait, je vous cite le texte Julien, intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant. Or là, en l'inverse, non seulement n'y a pas de faute de ce pauvre Pierre qui s'est fait pirater, mais à l'inverse, il y a une faute de la banque. D'accord. Le 7 juillet, le lendemain, elle envoie un code. Donc, on sent bien qu'il y a eu quelque chose. Et d'ailleurs, elle nous dit que ce jour-là, le 7 juillet, le lendemain, elle a essayé de récupérer l'argent. C'est donc la preuve que la banque savait qu'il y avait un piratage.
Monsieur Allaire, avant que je lance l'appel téléphonique, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter en tant que spécialiste expert en litige bancaire ?
Alors oui, bah tout à fait, c'est tout à fait courant hein, de toute façon, et elles ont également ce devoir de vigilance lorsqu'il y a un mouvement anormalement suspect sur le compte. Donc comme l'a dit votre collaboratrice, le monsieur ayant un flux créditeur moyenne mensuel de 400-500 euros, un gros virement qui part, ça doit l'interpeller systématiquement la banque, et elle aurait dû bloquer l'opération le temps de la vérifier.
Il est grand temps d'appeler, mesdames et messieurs, c'est parti. Depuis la salle des appels, la salle des négociations, nous mettons le dispositif en place. Céline, que vous pourrez maintenant entendre, car elle va redire bonjour aux auditeurs. Elle aime bien leur dire bonjour plusieurs fois dans l'émission. Céline,
bonjour à tous.
Voilà, il y a Bernard Sabat qui va négocier, et il y a, avec une casquette comme sur les grands prix de Formule 1 également, JB qui est prêt à intervenir pour n'importe quoi. Une panne de micro, un renseignement à donner, un conseil juridique, il est là et tient s'il le faut même un parasol comme pour les pilotes de Formule 1 au-dessus de Bernard Sabat si jamais il faisait trop chaud. Alors on y va, vous me lancez l'appel, nous commençons par l'agence locale. Elle se trouve, si je ne m'abuse, donc dans la capitale, elle se trouve dans le 12e arrondissement.
Alors,
c'est parti.
En fait, il se trouve qu'on n'a pas de numéro pour cette agence locale. On avait trouvé un numéro sur internet, mais figurez-vous qu'il renvoie vers un théâtre, donc ça ne va pas nous aider pour ce dossier.
Donc, pourquoi pas. Appelons maintenant un livreur de pizza. Allez, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Un théâtre, un charcutier, mais je veux quelqu'un en ligne. Donc, on va passer par le siège.
On va passer par la chargée de clientèle en charge de ce dossier.
La chargée de clientèle, mais c'est parfait. Donc, elle connaît parfaitement
Bienvenue
le dossier.
Sur la ligne de Isabelle.
Ah, elle n'est pas là, la dame. Elle doit être. Alors, malheureusement, il se peut aussi que des gens aient décidé aujourd'hui de faire du télétravail. Donc, mais nous allons passer peut-être par le siège. Du coup, on essaie de vous lui laisser un message ou nous avons un deuxième numéro à faire, s'il vous plaît, Céline.
Malheureusement, nous n'avons que ce numéro, mais nous avons le numéro du siège.
Si alors, en fait, le numéro du siège, c'est parti. Et puis, peut-être qu'en parallèle, Bernard Sabat, je le sens parce que je le vois près de moi dans la salle, est en train de peut-être tenter ce qu'on appelle chez nous le coup du Père François. Autrement dit, essayer Exactement. De joindre directement à des grands directeurs. Mais là, je suis au siège. Allô ? Le siège de la Banque Postale ? Il y a quelqu'un, Céline ? Je n'entends rien.
Écoutez, ça a répondu, mais je n'entends rien non plus.
Bon, écoutez, c'est un très bon début d'émission que vous faites, Céline. Je vous remercie. Je le note sur votre dossier d'évaluation pour les primes de fin d'année. Alors, vous essayez de m'avoir quelqu'un. Oui. C'est toujours comme ça au départ, de toute façon. Donc, quelqu'un au siège ou bien un contact privilégié que vous pourriez avoir, Bernard Sabat, pour le cas d'Éric. Dans une seconde, un deuxième cas va arriver. Mais écoutez bien comme... Ah, vous voyez, une alerte. Que se passe-t-il ?
Nous sommes en ligne avec le siège de la Banque Postale.
C'est parti. Bonjour, la Banque Postale.
Bonjour Julien, comment allez-vous?
Eh ben très très bien, merci beaucoup madame. Est-ce que je pourrais, je cherche un interlocuteur, Blanche Grandvilliers, oui. Notre avocate va nous dire, vous explique oui. En deux mots l'objet de l'appel, comme ça vous me trouvez quelqu'un. Je vous souhaite une belle journée madame.
Oui, vous également.
Oui, bonjour madame. Eh bien écoutez, un de vos clients s'est fait pirater la somme de 2500 euros, c'est un virement sur l'étranger qui a été fait, et depuis il essaye d'avoir le remboursement.
Voilà. Pardon. Madame. Vous pouvez me trouver quelqu'un?
Alors j'essaye un instant, vous patientez, mais...
C'est très gentil, madame. Je n'ai jamais, je crois, été en 22 ans reçu comme ça. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Vous qui avez l'habitude de ce genre de relation entre hommes et femmes, Charlotte, vous n'avez pas l'impression qu'il y avait un bon feeling?
Ah, carrément, mais d'ailleurs, elle vous connaissait avant même de prendre
non,
la ligne.
Parce que Céline lui a dit, je vais vous passer Julien Courbet, n'allons pas jusque-là. Et j'étais à deux doigts de lui faire... Dreams are my reality. Toi, à la Banque Postale. Allez, on y va pour un peu de musique et dans une seconde, donc un deuxième cas. Il y a Patrick Fiori, il y a Florent Pagny. Ils se croisent, ils disent pourquoi on ferait pas une chanson. Et ils la font. La voici, ça s'appelle J'y vais. Et c'est sur RTL. À tout de suite, mes amis. Bonne matinée.
S'il faut marcher une vie entière pour voir mon enfance dans les yeux, j'y vais. S'il faut retrouver sa lumière quand la chandelle en vaut le jeu, j'y vais. Comme un tout premier regard, le début de mon histoire, et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre. traverser les mers pour embraser les terres de feu. J'irai retrouver mes rêves d'hier pour leur donner le monde en mieux. J'y vais quand le passé me distance. Et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre. D'ici jusqu'au bout du monde, qu'importe où le temps nous portera. Il est la voix qui nous chante. Joli fantôme qui nous hante, cet enfant qui ne nous quitte pas.
Sur RTL, le 9h30, 11h30, avec Patrick Fiori et Florent Pagny en duo avec JV. JV, JV pour téléphoner, rapido! Ça peut arriver à n'importe quel moment et c'est maintenant. Mesdames et messieurs, vous n'avez que 5 minutes, montre en main pour téléphoner immédiatement. Peu de temps, donc plus de chances de gagner.
Vous appelez le 3210, 50 centimes d'euros la minute, ou alors vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS maximum.
Précipitez-vous, 3210 ou SMS 74 900, vous envoyez RTL. Une alerte, que se passe-t-il? Je pars, salle des négociations. Céline, s'il vous plaît, vous êtes en ligne avec quelqu'un?
Oui, nous avons la chargée de clientèle Isabelle Germani pour le cas de la banque, le cas d'Éric. Génial.
Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'RTL. Blanche de Grandvilliers, notre avocate, vous dit juste en deux mots de quoi il s'agit, puis en antenne, si vous voulez, on pourra peut-être discuter. Blanche.
Oui, bonjour madame. Un de vos clients, Pierre, s'est fait pirater la somme de 2500 euros sur son compte. C'est un virement à l'étranger qui est parti.
Voilà, et aujourd'hui il veut réparation parce qu'il n'a jamais fait de virement, il a 89 ans, il ne sait même pas comment faire. Donc Bernard, vous me récupérez s'il vous plaît cette dame, vous la remerciez mille fois. Enfin Bernard, oui. Si vous êtes toujours avec nous, parce vous entrez, vous sortez, on ne sait plus où vous êtes.
Mais je suis là Julien, mais j'étais en train de discuter avec la direction aussi de la banque postale.
Oui, vous embrasserez la direction et vous lui direz que pour le massage c'est bien confirmé pour 16h. Hein. Oui, je sais avec qui vous étiez Bernard. Récupérez donc cette dame qui est avec nous dans une seconde. Donc nous allons pouvoir discuter avec la banque postale, mais il y aura un deuxième cas qui arrive.
On revient avec Christophe sur l'affaire des copropriétaires qui attendent le paiement de leur loyer par les finances publiques.
C'est incroyable ce qui se passe, mesdames et messieurs. Maître Blanche Grandvilliers lance une queue-le-le dans les studios. Incroyable.
Oh lélé, oh là là, fécale.
Allez, à tout de suite sur l'antenne d'RTL. Bonne idée en tout cas.
Julien Courbet.
RTL. Ah, tous ceux qui écoutent RTL, je signale que nous sommes sur un cas de banque avec une personne âgée qui se serait fait hacker. On l'accuse d'avoir fait un virement à Londres, elle n'a jamais fait un seul virement de sa vie. Et malheureusement, on lui dit, tu vas payer. Mais l'équipe d'RTL s'occupe du cas. Alors, amener les informations, ça tombe bien, la salle des négociations. Céline, il y a quelques instants, nous avons pu avoir une dame qui connaît parfaitement le dossier.
Il s'agit d'Isabelle Germani de la Banque Postale. Elle a pu discuter avec Bernard Sabat hors antenne.
Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Bernard, comment ça s'est passé avec cette dame?
Alors, évidemment, elle ne peut pas me parler officiellement parce qu'elle est tenue au secret professionnel. Elle est en train de parler avec Éric et le papa d'Éric, justement, pour voir un petit peu comment avance ce dossier.
Est-ce qu'en parallèle, vous avez pu avoir le contact privilégié, car je le dis, sous contrôle de notre rédacteur en chef avec la Banque Postale et la Poste en règle générale, c'est quasiment 100% des cas qui sont résolus vraiment sur RTL quand nous prouvons par A plus B que nous avons bien sûr les bons documents et les bons arguments. Bernard.
Oui, notre héros de la banque postale, Monsieur Gourrier, est au courant du dossier, je lui ai envoyé tous les éléments, il va revenir vers nous le plus rapidement possible, Julien.
On peut faire comme ça, est-ce qu'il est prêt à patienter un petit peu Eric pour son papa?
Il ne peut pas vous parler pour l'instant parce qu'il est en discussion avec Madame Germani.
Ah, très bien. Écoutez, vous avez la chance de suivre l'émission parce que visiblement, moi je ne la suis pas du tout. merci.
Je vous excuse, Julien.
Donc, il parle avec la dame de la poste. C'est une bonne nouvelle. Quelque chose à rajouter? Peut-être une règle d'or? Dites-moi, c'est open bar pour vous aujourd'hui.
D'accord. Non, c'est juste une remarque par rapport au courrier de la banque qui s'est donc défendu en indiquant, en confirmant qu'effectivement, c'était de la faute de notre auditeur, en indiquant que ce virement, c'était soit une erreur de manipulation de sa part, soit une petite négligence, soit un virus qui affecte l'ordinateur utilisé. Je suis désolée, Julien, ce ne sont pas les textes de la loi. Il faut que la banque prouve une négligence grave ou qu'il n'est pas satisfait intentionnellement. Mais... Et petite cerise sur le gâteau, en plus, ils lui ont prélevé des frais pour incident.
Voilà, je crois que la coupe est pleine, donc c'est pour ça que nous allons avancer sur ce dossier. Nous allons maintenant revenir sur le gros dossier de l'année. Il s'agit de 33 personnes à qui on dit « Est-ce que vous ne voudriez pas investir dans des petites maisons, Charlotte ?»
Alors,
ils disent « Attendez, mais on n'a pas les moyens, nous on paie déjà notre maison. » Non, non, mais c'est un investissement qui vous rapportera et qui est sans risque. Pourquoi il est sans risque ?
Parce que c'est l'État qui va payer les loyers puisque ces maisons sont louées à la Gendarmerie nationale.
Et tout d'un coup, 15 ans après avoir payé les loyers, c'est l'État qui paie les loyers, donc qui couvre les crédits. Eh bien, l'État dit « C'est trop cher. Maintenant, le loyer sera de 30% de moins. » Les propriétaires disent « Hors de question. » Eh bien, 15% de moins. Les propriétaires disent « C'est hors de question. » Eh bien, puisque c'est ça, on ne paie plus les loyers. On marche sur la tête quand on entend ça, c'est pourtant vrai. Et nous en parlons, si vous le voulez bien, tout de suite avec... C'est Laurent qui nous va nous rejoindre.
C'est Christophe.
C'est Christophe, c'est notre rubrique « Ne m'appelez plus jamais France ».
Ne m'appelez plus jamais France.
Non, la France.
La France, elle m'a laissé tomber.
Vous imaginez l'État qui ne paie plus ses loyers. Que se passerait-il si vous ne payez plus vos impôts, vos contraventions? Vous le savez ce qui va se passer. Ben, là, pour le coup, on aimerait bien que ça se passe de la même façon. Christophe est en ligne avec nous. M'entendez-vous, Christophe?
Oui, bonjour.
Christophe, c'est notre ami artisan.
Oui.
Alors Christophe, lui, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que non seulement il n'a plus de loyer, mesdames et messieurs, puisque l'État ne le paie plus, mais en plus, comme il est venu sur l'antenne d'RTL, figurez-vous que quelques jours après son premier passage sur RTL, il se prend un contrôle fiscal, il revient sur l'antenne d'RTL, il se prend un contrôle URSSAF, il revient sur l'antenne d'RTL, il se prend un contrôle Covid. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont vous sortir demain, mais Christophe, il me tarde de le savoir.
Ah bah, eh bien, je peux vous le dire, je viens de faire voler ma voiture.
Non, oui, mais non, c'est quand même pas. Là, je vois mal l'État venir vous piquer votre voiture, ne sachant plus quoi faire, l'État. On lui a mis tous les contrôles possibles. Bon, allez lui piquer sa voiture. Et si demain il fasse encore sur RTL, vous lui casserez la gueule, François. Mais c'est pas mon métier, je m'en fous. Alors, que s'est-il passé depuis? Donc, on connaît bien ce dossier. Charlotte, s'il vous plaît.
Je vous rappelle déjà qu'il y a une réunion qui est prévue demain, le 30. Donc, j'espère qu'elle pourra être mise en place. Mais j'imagine qu'ils pourront faire ça par Zoom ou par vidéoconférence. L'autre nouvelle, c'est qu'il y a un sénateur qui s'est un petit peu bougé pour ce dossier.
Et vous allez nous en dire plus dans quelques instants. D'accord. Parce que le sénateur, il faut lui laisser le temps d'arriver. Vous savez qu'on dit toujours un rythme de sénateur. Et bien, c'est dans une seconde sur l'antenne d'RTL que nous allons voir si ce dossier va bouger. On enchaînera ensuite, Charlotte.
On aura le cas inédit de Julien. Un taxi est parti avec son matériel vidéo, un préjudice d'à peu près 15 000 euros.
Ça négocie pour la banque pour le cas numéro 1. A tout de suite sur RTL, mes amis. Vous avez choisi RTL, votre compte est hacké, vous n'y êtes pour rien et pourtant on vous fait payer. Et l'État qui ne paie pas ses loyers à suivre, bien sûr, sur votre radio RTL. Enguerrand, la Rolls n'a plus d'essence, alors plutôt que de faire le plein, j'en ai acheté une autre. Il est 10h, branchez-vous, votre fils va parler. Eh bien, voici Alexandre de Saint-Aignan pour l'information. À vous, Alexandre.
Bonjour Julien, bonjour à tous. On va bien sûr parler du reconfinement dans quelques instants. Mais d'abord, cette information qu'on a appris il y a quelques minutes, Alice Moreno, une attaque au couteau vient d'avoir lieu à Nice devant une église.
Oui, un homme s'en est pris à plusieurs personnes. En fait, c'est à l'intérieur de la basilique Notre-Dame, en plein cœur de la ville, que ça s'est passé. Ça s'est produit donc vers 9h ce matin. Une femme a été tuée, elle a été décapitée. Un homme est décédé de ses blessures. Il y a d'autres personnes blessées plus légèrement. L'auteur de l'attaque a été interpellé 10 minutes plus tard. Un large périmètre de sécurité est déployé autour de la basilique. Les équipes de déminage sont sur place pour procéder à des vérifications.
Voilà, 2 morts et plusieurs blessés dans cette attaque. On va bien sûr y revenir tout au long de la matinée sur RTL. C'était les informations d'Alice Moreno du service police-justice. Notez que l'Assemblée nationale vient de suspendre sa séance et de faire une minute de silence quelques instants seulement après cette attaque de Nice. Le député LR des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, vient de réagir depuis les couloirs du Palais Bourbon. C'était il y a quelques instants.
L'entête de Nice du RAID a pénétré dans l'église de Nice. Les forces de sécurité sont sur place. C'est naturellement un sentiment d'immense émotion qui m'étreint à l'instant. Je vais me rendre sur place avec le ministre dans quelques minutes. Semble-t-il, d'après les informations dont je dispose à cette heure, de la part des forces de secours, ça ressemble en tout point à une attaque terroriste.
Voilà, ça ressemble à une attaque terroriste. Les propos d'Éric Ciotti, recueillis par Marie Mollet pour RTL, l'Assemblée nationale, où s'exprimait il y a encore quelques minutes le Premier ministre, Jean Castex, qui a donné quelques informations supplémentaires, notamment des informations pratiques sur le reconfinement, William Galibert.
Oui, les zones d'ombre ou de flou s'estompent progressivement. La principale nouveauté, c'est que le port du masque à l'école sera étendu dès le primaire, dès l'âge de 6 ans. Jusqu'à présent, l'obligation...
vous conseille de jouer le 12, l'As, le 9... le 2, le 6, le 10, le 7 et le 13. La dernière minute, c'est le numéro 6. Blue Swan, il est 10h04 sur RTL. C'est le retour de Julien Courbet.
Merci beaucoup. D'autres infos tout à l'heure à 11h. Et bien sûr, s'il se passe d'autres choses, vous intervenez à n'importe quel moment. Alexandre, je vous remercie. Quant à nous, très rapidement, un cas de hacker est arrivé sur l'antenne d'RTL. Point info rapide.
Let's go! Eric aide son père. Un virement a été fait à son insu de 2 500 € de son compte bancaire vers un compte en Angleterre.
Alors là, nous n'avons pas le temps, mais Bernard, dans une seconde, vous me dites que vous avez pu avancer dans cette conversation qui s'est pas très bien passée, je crois.
C'est le moins qu'on puisse dire, Julien. Vous verrez avec Eric tout à l'heure.
Bon, nous allons donc avancer là-dessus, puis nous avons notre deuxième cas. Vous savez, l'État qui ne paie pas les loyers, où il y aurait du nouveau. Tout ceci va se passer dans quelques instants et ça va bouger sur l'antenne d'RTL en votre compagnie. Bien sûr, je vous dis donc à tout de suite. RTL.
RTL.
Et voici la deuxième demi-heure de notre émission qui démarre maintenant, mesdames et messieurs, avec nos avocats Blanche Grandvilliers, notre négociateur Bernard Sabat, tous nos journalistes et des cas que nous allons reprendre maintenant qui sont tout simplement incroyables et qui peuvent arriver à n'importe qui. Ne l'oubliez pas, entre 9h30 et 11h30 chaque matin, c'est ça peut vous arriver. Alors, il y a quelques instants, grosse histoire de banque, nous vous le disions, Charlotte. Rappelons quand même que cette personne n'a jamais fait un seul virement de sa vie. Et aujourd'hui, on lui dit « si, tu as fait un virement et en plus, tu l'as fait à Londres où elle n'a jamais été de sa vie, elle ne connaît personne là-bas et elle doit payer ».
Il a 88 ans, il ne maîtrise pas Internet et pourtant, un virement en ligne a été fait de son compte vers l'Angleterre. Ça ne peut pas être lui.
Blanche de Grandvilliers, nous avons eu un expert des banques, mais vous êtes vous-même dans votre cabinet une experte en banque. On est bien d'accord que c'est la banque qui doit prouver qu'il y a eu une faute de la part de ce monsieur.
Non seulement la banque doit prouver qu'il y a une faute de la part de ce monsieur, mais on l'a déjà dit tout à l'heure, il y a tous les éléments pour prouver que la faute vient de la banque. Elle aurait dû faire preuve de vigilance pour interdire ce virement.
Et c'est pour ça que nous avons appelé la banque pour leur expliquer gentiment tout ceci. Et apparemment, ça ne s'est pas passé comme prévu. Je pars, salle des négociations où nous retrouvons maintenant Bernard Sabat. Bernard, donc qu'est-ce qui s'est passé ? En antenne, notre auditeur, qui est aussi le client de la banque, a parlé avec cette dame qui connaît le dossier.
Exactement, c'était Isabelle Germani qui au départ m'a dit qu'elle ne parlerait pas avec moi parce qu'elle est tenue au secret professionnel. Donc ça, je l'ai bien compris. Je l'ai connectée avec Eric. Elle ne voulait pas parler avec lui en disant « il faut parler, donc je veux parler donc au père, le propriétaire du compte ». Donc ça tombait bien parce que Pierre Evenou, le père, était à côté d'Eric. On lui a passé donc ce monsieur-là. Et puis Eric va vous raconter la suite.
Alors Eric, vous êtes en ligne avec nous. Votre papa a donc pu parler, je crois qu'il a 89 ans, avec cette dame de la Banque Postale. Que s'est-il dit exactement, s'il vous plaît ?
Alors, écoutez, la dame dit qu'elle est toujours disponible, qu'elle peut recevoir les gens à condition de prendre rendez-vous. Donc, évidemment, les rendez-vous que j'essaie d'avoir avec elle n'aboutissent jamais. Elle a dit à mon père qu'il était responsable, que la preuve avait été faite, qu'il avait donné son identifiant et son mot de passe, et que dans ces conditions, la banque n'avait plus rien à voir avec ça. Donc, elle charge mon père. Et je lui dis, bah oui, bien sûr, il doit donner son identifiant et son mot de passe tous les jours dans la rue. Il doit même distribuer des cartes avec son identifiant et son mot de passe. En plus, c'est écrit sur un endroit sur son carnet dont il se souvient pas. Donc, la banque continue et maintient sa version que mon père est responsable. Donc, double peine pour lui. Et depuis le début, non seulement il se fait voler 2 500 €, mais en plus, en gros, on l'accuse de donner son mot de passe et son identifiant sous prétexte qu'à 88 ans, bah, on doit plus être très clair et que c'est évident que ça a dû lui arriver, mais même s'il s'en souvient pas, quoi.
Alors,
donc,
moi,
c'est honteux.
Mais bien sûr, je comprends. Alors, nous avons, alors ça, pour le coup, vous savez, on me demande souvent, est-ce qu'il y a des nouvelles arnaques, des nouveaux cas depuis 21 ans qui arrivent? Alors, on a connu la bulle Internet, puisque quand on a démarré l'émission, Internet n'existait pas. Mais là, c'est la nouvelle grosse vague, hein. Le mot est à la mode, c'est le hacking. On a tous les jours sur le bureau un cas qui arrive comme ça, de gens qui piratent vos comptes et qui font même mieux. Vous recevez un coup de téléphone et apparaît sur votre portable le numéro de votre agence bancaire. Donc vous n'avez aucune raison de douter et pourtant le hacker a réussi à récupérer le numéro. Je ne sais pas par quel miracle le fait apparaître sur votre portable et vous vole votre argent. Alain Hazard, on a plein de banques. Vous êtes rédacteur en chef qui ont eu ce genre de problème avec des clients et beaucoup ont remboursé, il faut dire les choses comme elles sont.
On peut dire quasiment que allez, 8 fois sur 10 en général ils remboursent.
Alors nous avons aussi JB qui s'est renseigné un petit peu là-dessus, ça devient un phénomène de société ce hacking.
Ah oui, totalement, je peux vous dire qu'il y a un Français sur 5 par an qui se fait pirater son compte, c'est tout à fait énorme. Il y a 29 cyberattaques par an par société également. Et j'ai d'autres chiffres également, en mai dernier des hackers affirmaient avoir vendu plus de 73 millions de données personnelles sur le dark web. Des comptes.
Alors nous allons maintenant passer peut-être à la vitesse supérieure, Bernard Sabat, parce qu'on ne peut pas en rester là, il faut aider Eric, il est dans son droit. Que pouvez-vous nous dire ?
Juste avant, je vous dis juste que ma femme a piraté ma carte il y a 48 heures, ouais. Elle a dépensé 10 000 euros dans les magasins, je peux vous dire que je suis très mal.
Vous êtes surtout très mal au niveau emploi, car vous venez de perdre le vôtre, par cette intervention, mon cher Bernard. Je sens bien que vous avez des problèmes de couple, oui. Je veux bien les régler sur l'antenne, mais je dois avoir un débat contradictoire, donc puisque c'est ça et puisque vous l'avez cherché, nous appellerons votre femme tout à l'heure sur l'antenne d'RTL et vous vous débrouillerez avec elle. Est-ce qu'on peut avoir le grand responsable dans quelques instants.
Oui, Julien, je l'ai eu au téléphone. Il m'a demandé le dossier dans sa totalité. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai envoyé par mail, par WhatsApp. Donc, il a tous les éléments. Il m'a demandé 48 heures pour avancer sur ce dossier.
C'est incroyable que vous arriviez à prononcer WhatsApp, vous qui avez tant de mal avec des mots simples.
WhatsApp, voilà.
C'est WhatsApp. Je rappelle qu'une fois, notre rédacteur en chef, je vous assure que c'est vrai, Alain Hazard, que vous avez entendu il y a quelques instants, nous bloquions, je crois, sur un sujet. Oui. Et il avait communiqué avec l'auditeur. Et il me dit tout d'un coup au micro, Julien, tout va bien, l'auditeur est avec nous sur WhatsApp. Je pense qu'on a encore un petit peu de retard sur le progrès, mais on y arrive petit à petit, on essaie de rattraper, c'est pas facile.
Julien, je ne m'en rappelle pas.
Oui, moi aussi. Nous allons donc revenir dans une seconde. Je lui demande de patienter un tout petit peu à notre ami artisan qui vit, mais une injustice juste incroyable, c'est le monde à l'envers, on marche sur la tête quand l'État ne paie pas les loyers.
Il a investi dans des petites maisons louées à la gendarmerie en se disant que c'était un investissement locatif sûr. Eh bien non, puisqu'aujourd'hui, les finances publiques veulent baisser le loyer de 30%.
Allez, nous allons écouter un petit peu de musique, nous occuper de cette histoire de loyer non payé. Sixième ou septième passage maintenant en ce qui concerne notre ami. Et vous me dites qu'il y aura peut-être un petit peu de nouveau. Hein ?
Un petit peu.
Très bien. Maintenant, Bernard Sabat n'ose pas vous le dire, Blanche de Grandvilliers, puisqu'il a mis sa femme dans l'histoire et que sa femme écoute, mais il vous dédie ce titre que vous écoutez. Vous l'avez reconnu le titre ?
Non, pas encore.
Alors, c'est « I want your sex » de George Michael.
C'est pas le moment.
Et d'ailleurs, Bernard Sabat est plus George que Michael, vous l'avez remarqué. Allez, de nous retrouvons après avoir écouté ce chef-d'œuvre sur RTL. Le grand George est regretté, George Michael. I want your sex. Nous allons revenir donc sur ce cas de loyer. J'en profite pour vous dire que le confinement arrive. Peut-être aurez-vous envie de lire un petit peu. Bernard Sabat vous propose un ouvrage autobiographique qui sort aujourd'hui. La merguez a changé ma vie.
XO, lire pour le plaisir.
Alors nous allons revenir sur cette histoire, bien sûr, de loyer non payé par l'État. On ne va pas rappeler ce qui y arrive. Où en est-on maintenant, Christophe? Est-ce qu'il y a eu du nouveau, s'il vous plaît?
Et oui, nous en avons eu un tout petit peu parce que Monsieur Serge Mérillou, qui est le sénateur de Dordogne, s'est ému de notre situation et a fait un courrier à Monsieur Faguet pour essayer de trouver une issue favorable dans les plus brefs délais pour notre affaire.
D'accord. Et donc?
Pour l'instant, voilà, ça s'arrête
là. Pour l'instant, il y a juste un sénateur qui a dit « je vais m'en occuper », sans avoir vraiment, c'est vrai, mais tant mieux, et bravo à lui, le pouvoir peut-être de faire bouger les choses. Charlotte?
Oui, effectivement, mais en tout cas, il a entendu l'appel à l'aide et il va essayer de donner un coup de main dans cette affaire. On rappelle qu'il y a une réunion qui est prévue demain, donc on espère qu'elle pourra se tenir en vidéoconférence pour discuter de ça. Et puis, il y a plusieurs médias qui se sont intéressés à l'affaire, notamment nos confrères de Sud-Ouest et également de France 2.
Bon, nous espérons que quand même l'État va comprendre que loyer qui a été fixé, que pendant 15 ans ce loyer a été fixé. Si aujourd'hui ils estiment que c'est trop cher, eh bien ils s'en vont, ils libèrent les maisons et quelqu'un d'autre viendra. Mais qu'ils ne peuvent pas imposer en faisant ce chantage, nous ne payons plus les loyers si vous ne les baissez pas, ce n'est juste pas possible. D'autant plus que les loyers, Christophe, vous me le confirmez, couvrent même pas le crédit. C'est-à-dire que vous devez en rajouter un petit peu. C'est certes un investissement pour plus tard, mais ça ne couvre même pas. Donc si on baisse les loyers, c'est banqueroute.
Ah oui, absolument, parce que pour tout vous dire, les loyers avant étaient de 800 euros bruts, ce qui me faisait à peu près 750 euros net, et le montant des remboursements est de 1100 euros. Sous votre aide, les impôts ont payé un acompte, mais qui tient compte des 30% de baisse.
Ce qui veut dire que vous revenez sur l'antenne d'RTL dans deux jours pour nous en dire un petit peu plus. Merci Christophe, on ne lâche pas l'affaire, je vous le promets. Et tous ceux qui veulent en parler sont bienvenus pour en parler. Dans une seconde, Charlotte, s'il vous plaît.
On va aider Julien sur RTL. Il a confié du matériel vidéo à un taxi pour le transporter. Et bien ce taxi a disparu avec.
C'est une histoire juste incroyable. Une histoire de médias d'ailleurs. Mais l'arnaque est fantastique. Y a-t-il une complicité au sein de la société de taxi? Nous allons le voir dans quelques instants. Ne manquez pas ce dossier en direct sur RTL.
RTL.
Alors, nous allons accueillir sur l'antenne d'RTL, si je ne m'abuse, Julien, Charlotte. Julien est en ligne avec nous. Julien, bonjour.
Oui, bonjour.
Soyez le bienvenu, Julien. Nous allons raconter cette histoire hallucinante. Alors, vous travaillez dans le métier, hein, le même que nous, Julien, puisque vous êtes cadreur quand il y a un reportage chez vous que l'on appelle. Vous partez avec votre matériel. Et c'est important ce que je suis en train de dire, parce que le matériel en question, donc, vous est loué par une boîte de prod ou par une télévision. Vous vous êtes chargé d'aller le chercher, ce matériel, et de partir faire un reportage. Mais ce matériel vaut combien à la louche, à peu près?
Ce matériel vaut à peu près entre 10 et 15 000 euros. Enfin, sur l'ensemble du matériel, ouais, il y en a à peu près pour 10-15 000 euros.
Donc on vous envoie faire un reportage et on vous dit il faut aller récupérer le matériel à tel endroit. Vous, je crois, vous circulez en deux roues, si je ne m'abuse, Julien.
Oui, c'est ça, absolument.
Julien, étant en deux roues, va décider d'appeler une compagnie de taxi en leur disant « je vous donne rendez-vous à tel endroit, je chargerai le matériel dans la voiture et vous l'emmènerez chez moi, enfin chez vous je suppose, puisque vous partiez que le lendemain faire le reportage ».
Oui, c'est ça, mais j'ai même pas précisé que je chargeais, que moi j'étais en scooter, moi j'ai juste appelé un taxi, j'ai juste commandé un taxi à une adresse, donc j'appelle une centrale, qui me dit en gros « ne quittez pas, un chauffeur va vous rappeler ».
D'accord.
Et deux minutes après avoir appelé cette centrale, j'ai un chauffeur qui m'appelle et qui me dit en gros vous êtes bien au. Il avait à peu près l'adresse exacte, donc c'est-à-dire que le chauffeur a l'adresse et vient me chercher.
D'accord.
Et en gros, là arrive une voiture qui n'est pas siglée taxi. Donc là, je suis un peu étonné. Je demande au chauffeur pourquoi vous n'êtes pas siglé taxi, pourquoi vous n'avez pas le.
le petit macaron taxi, enfin le voilà. Et le chauffeur me dit, bah en fait, la société sous-traite quand il y a beaucoup de d'appels, ils font appel à nous. Moi, je suis chauffeur privé, donc la société sous-traite, mais vous inquiétez pas, je suis gros comme un Uber, quoi.
Donc vous mettez le matériel dans la voiture.
Donc je mets le matériel dans la voiture. Le chauffeur pensait que j'allais monter avec lui. Donc le chauffeur me dit, bah vous montez pas avec moi. Je dis non, mais je vais vous suivre en scooter. Et avant, évidemment, je prends sa plaque en photo.
Voilà. Oui, parce que vous avez commencé à sentir que ça n'allait pas tout à fait dans le bon sens, l'histoire. Un chauffeur de taxi qui ne peut pas venir.
En général, quand je confie du matériel à un taxi, je prends toujours
la plaque.
J'ai toujours cette précaution de prendre la plaque ou le numéro de taxi.
Une question, Julien. Cette compagnie de taxi, vous la sortez d'où? C'est une compagnie que vous avez l'habitude d'appeler?
Alors justement, j'arrivais pas à joindre. Moi d'habitude, je fais plutôt appel à des taxis que je connais.
Ouais.
Donc là, du coup, j'ai regardé sur Internet.
Donc c'est taxi, une compagnie qui a caparé sur un site. Enfin, quand on va sur Internet, les renseignements.
C'est une compagnie qui, quand on tape taxi G7 ou réservation taxi, c'est une compagnie qui apparaît dans les trois ou quatre premiers référencements Google.
Alors Julien, d'autres explications avec Charlotte sur cette compagnie.
Alors justement, il faut faire attention quand on fait une recherche Google, parce qu'en fait, on peut, quand on a n'importe quel petit site Internet qu'on crée nous-mêmes, apparaître dans les premiers résultats Google. Il suffit pour ça de payer.
Est-ce qu'elle existe vraiment, cette compagnie, d'après vous, Charlotte, ou est-ce que c'est finalement une très grosse escroquerie? Ils ont créé cette fausse compagnie pour que les gens tombent dessus.
Quand j'ai cherché le numéro sur Internet, je suis tombée effectivement sur un site qui propose des taxis, mais ce qui est très étrange sur ce site, c'est déjà que l'interface est très simple, mais surtout qu'il n'y a pas de mention légale. Impossible de savoir si cette société est enregistrée au registre du commerce. On a une adresse qui est notée. Quand j'ai cherché des compagnies de taxis à cette adresse, non seulement je me suis rendu compte qu'il y en avait énormément, mais en plus que c'est tout simplement une domiciliation, une boîte postale.
Alors nous allons appeler dans quelques instants, et pourquoi pas réserver un taxi. Nous allons voir si c'est une vraie compagnie. Et si c'est une vraie compagnie, ça voudrait dire, Blanche de Grandvilliers, qu'il y aurait peut-être une complicité. Ce qui est juste dingue, c'est qu'ils ne savaient pas vraiment qu'il allait avoir du matériel, qu'ils ont improvisé. On ne comprend rien dans cette histoire, mais elle sent très bon, pour nous, mais pas pour notre auditeur, Julien.
Ce qu'on peut dire, Julien, en tout cas, c'est que la centrale de réservation de taxi, elle est de toute façon responsable de plein droit à l'égard de Julien. C'est l'article 3142-3 du Code des transports qui prévoit que le taxi est responsable, mais également complètement la centrale de réservation. Donc une responsabilité civile, tout au moins, puisque le matériel a disparu, et peut-être éventuellement pénale si on peut prouver cette complicité.
Nous allons appeler dans quelques instants. Julien, restez avec nous. Ça nous rappelle une arnaque, hein, Bernard Sabat, que vous connaissez bien, puisque vous avez vous-même été chauffeur de taxi. Et lui, le truc, c'est que quand il avait des clients, il les faisait toujours passer, quelle que soit la destination, par la boutique de son épouse pour leur proposer peut-être de finir les stocks, mais ça n'a pas duré longtemps.
Non, mais ça me paraît normal. On le fait bien pour les guides quand on va à l'étranger, mais ils vont dans certaines boutiques. Je vois pas pourquoi on n'irait pas chez la boutique de mon épouse.
Ce que j'aime chez Bernard Sabat, c'est que c'est un escroc, mais il le reconnaît.
Contrairement
à beaucoup qui se cachent, lui, à la franchise, bien sûr, de le dire. Allez, préparez les numéros, s'il vous plaît, Céline. On va tenter d'appeler dans une seconde, donc, cette compagnie de taxi qui apparaît quand vous tapez taxi parisien. Il y a les grandes compagnies qui arrivent et il y a celle-ci. Et nous allons voir ce que ça va donner. Vous avez tous les numéros, ma Céline ?
J'ai tous les numéros.
Alors, soyez avec nous pour ce moment. D'autres cas vont arriver et on attend toujours sur le hacker, hein, sur le problème de hacking. On attend toujours, bien sûr, du nouveau. Ça se passe sur RTL. Je vous dis à tout de suite, mes amis. RTL. Allez, mesdames et messieurs, sur RTL, toujours en direct et avec toute notre équipe pour essayer de régler tous vos problèmes. Et Dieu sait que nous avons du lourd ce matin. Nous allons, si vous le voulez bien, maintenant faire un point sur tous les cas et voir comment ceux-ci ont évolué. C'est parti, on y va. Let's go. Charlotte, nous avons démarré avec ce problème de hacking avec Eric.
Il aide son père de 88 ans sur RTL. Il a été victime d'une fraude bancaire d'un montant de 2500 euros.
Et ça s'est pas très bien passé, on le rappelle, dans les différentes négociations, Bernard Sabat, puisque nous avons eu d'abord l'agence locale, où là je crois qu'il y a eu un petit raccrochage.
Oui, puis après on a eu donc la chargée de clientèle carrément, donc Isabelle Germani qui a parlé avec Eric. Ça s'est pas bien passé du tout, c'était extrêmement tendu. Elle ne souhaitait pas lui donner rendez-vous en disant, si c'est passé par ma direction financière, c'est que pour nous le le dossier est clôturé. C'est pas, à mon avis, une réponse à donner à un client qu'on veut conserver, mais je pense que monsieur Gourrier, un des responsables de la Poste, qui a le dossier en main, vient de m'envoyer un texto en disant ça y est, j'ai vu. Donc ça veut dire qu'il a reçu le dossier, donc il va le suivre.
Alors, est-ce qu'il a vu Blanche de Grandvilliers, monsieur Gourrier? Parce que le jour où il la verra, je peux vous dire que le dossier prendra une toute autre tournure. Elle prend la parole maintenant en direct sur RTL.
Oui, je suis pas très contente, Julien, parce que notre auditeur, il a saisi le médiateur en disant que bah voilà, il voulait résoudre amiablement le litige avec sa banque, et on lui a répondu que le médiateur n'avait pas tous les documents, en tout cas qu'il n'avait pas épuisé tous les recours internes, alors que c'est le cas, puisque on apprend de la bouche de Bernard que au niveau interne de la banque, eh bien le dossier est clôturé. Donc le médiateur aurait dû être compétent et se saisir du dossier. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas été là, Julien, eh bien notre auditeur, il aurait rien pu faire.
Enfin, attention quand même avec la bouche de Bernard, parce que ce qui sort de la bouche de Bernard, est-ce que c'est vraiment parole d'évangile? Je n'en sais rien.
Évangile, non.
En tout cas, merci beaucoup à Blanche de Grandvilliers, qui, je le rappelle, vient d'un milieu très huppé, la grande dynastie des Grandvilliers, où on ne dit pas j'enquête, mais on dit, rappelez-vous, c'était sur l'antenne d'RTL il y a quelques jours.
L'enquête.
Merci en tout cas à Blanche. Puisqu'il faut parler comme ça, continuons. Charlotte, nous avons également eu cette histoire de loyer que l'État ne paie pas. Je suis toujours sidéré quand j'entends ça.
33 propriétaires confient la gestion de leurs biens immobiliers à la gendarmerie et les finances publiques arrêtent de payer les loyers et réclament une baisse de 30% du montant du loyer.
Là, pour l'instant, ce que nous savons, c'est qu'un sénateur a pris le relais. Nous nous sommes battus. La presse a pris aussi le relais. Donc, nous attendons une réunion demain. C'est
exactement.
Ça
la réunion est prévue demain pour définir les termes du nouveau bail.
Blanche de Grandvilliers nous en dira plus, parce qu'elle est toujours la concernant sur une...
L'enquête.
Nous allons parler maintenant de Julien. L'histoire de Julien est tout simplement incroyable. Julien travaille dans le métier. Il est cadreur. On l'envoie faire des reportages. Il a besoin de matériel, je vous le rappelle. Et pour cela, il va dans une boîte où on lui dit « va chercher ton matériel, là ta caméra, et puis tu partiras faire ton reportage ». La compagnie taxi qu'il appelle d'habitude pour charger le matériel, puisqu'il circule en scooter, n'étant pas disponible, il n'arrive pas à les joindre, il va sur un moteur de recherche et il tape « compagnie taxi Paris, Charlotte ».
Exactement, et là, il trouve dans les premiers résultats un numéro qu'il va appeler. Mais il faut savoir que dans ces premiers résultats, on trouve souvent des personnes qui ont payé très cher pour apparaître, pour être appelées, et donc parfois des personnes mal intentionnées.
Eh bien, nous allons appeler maintenant, car qu'est-ce qui va se passer? L'histoire est folle. Un taxi devrait arriver, mais c'est une voiture qui arrive et qui connaît ce monsieur en disant « Monsieur, vous avez bien réservé un taxi à telle heure, à telle adresse ?» Oui, eh bien c'est moi. Mais enfin, vous n'avez pas le petit équipement taxi. Ne vous inquiétez pas, quand il y a trop de monde, on sous-traite et on passe par des gens comme moi, donc je vais vous amener. Il charge le matériel et il s'aperçoit que notre auditeur ne monte pas dans la voiture, mais le suit en scooter. Il lui dit « Amenez-moi chez moi, puisque je ne peux pas prendre moi le matos. » Et là, qu'est-ce qui va se passer, Julien? Parce qu'il faut quand même le raconter. Vous êtes en scooter derrière lui. Vous êtes censé aller chez vous. Il est censé aller chez vous pour déposer le matériel. Et là, c'est digne d'un polar. Expliquez-nous.
En fait, je le suis à peu près jusqu'au niveau de la porte d'Auteuil. Et du coup, je le perds dans la circulation, parce qu'il y avait beaucoup de circulation. Mais bon, comme j'avais pris sa plaque... j'étais pas trop inquiet. En fait, le matériel n'est jamais arrivé.
Le matériel n'est jamais arrivé, il s'est sauvé avec. C'est une histoire de fou qu'on vous raconte ce matin. Alors, vous avez été déposé plainte, il y a eu des premières recherches par rapport à la plaque d'immatriculation. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs ce matin sur RTL?
La plaque sortait sur un nom d'un particulier, sur Drancy.
Ouais.
Je pense que la police devait aller faire un tour le lendemain matin. Moi, j'ai pas eu de nouvelles encore de la police. Alors, je ne sais pas s'ils enquêtent ou pas.
Alors,
une filature.
Est-ce que vous avez rappelé quand même la compagnie en leur expliquant ce qui s'était passé?
Oui, non, et bien sûr, le soir où j'ai vu que le taxi n'arrivait pas, j'ai appelé la compagnie. Tout de suite et. L'interlocuteur m'a dit « Écoutez, moi, je vous ai jamais envoyé cette voiture. Je vous avais envoyé une C5 dont la course a été annulée. » J'ai dit « D'accord, mais comment expliquez-vous le fait que ce chauffeur avait mon numéro, l'adresse, etc. » Enfin, qui l'a mis en relation avec moi, en fait? Et le mec a pas su me dire, le mec de la compagnie, il a nié assez rapidement. Enfin, assez bizarre au téléphone. Ouais.
C'est une spéciale. Alors, il y a deux solutions. Soit effectivement, c'est une bande organisée et ils font très fort et ce monsieur vous a menti. Soit la compagnie est victime et on revient au premier cas de hacking. C'est-à-dire que quand j'expliquais tout à l'heure que des fois, vous receviez un coup de fil avec le numéro de votre agence bancaire et en fait, c'est un hacker qui a réussi. Peut-être peuvent-ils intercepter comme ça aussi les appels téléphoniques, mais quoi qu'il arrive, il y a une responsabilité, puisque vous avez la preuve, et vous les avez dans les documents, et vous, Blanche Grandvilliers, et vous, Charlotte, il a la capture d'écran de l'appel au bon numéro de la compagnie de taxi.
Exactement, et même pas une minute après, un autre numéro qui s'affiche sur son téléphone, celui du faux chauffeur.
C'est ça qui est fou, c'est qu'il donne son numéro, le faux chauffeur, Blanche.
Ce qu'on peut ajouter, ce qui est un petit peu étonnant dans l'explication de la centrale de taxi, c'est qu'elle dit avoir envoyé un véhicule qui n'est pas arrivé, mais si le véhicule il arrive sur place et qu'il n'y a personne. Dans ce cas, il aurait dû rappeler Julien en disant « Attention, c'est bizarre, vous n'êtes pas là, qu'est-ce qui se passe ?»
Mais oui. Non,
surtout que c'était quand même une course assez longue puisque c'était assez loin et il avait attendu 20 minutes pour cela, Julien, donc c'était étonnant qu'il soit parti.
Il va falloir lancer l'appel, je crois que Bernard Sabat a quelque chose à nous dire.
Non. À quelles sont jolies les filles de mon pays.
D'accord, merci Bernard, mais essayons de rester concentrés plutôt sur le dossier pour l'instant. Dans une seconde, nous allons appeler cette compagnie de taxi, donner son nom et essayer de savoir si c'est une vraie compagnie. Et j'aurai besoin de vous, auditeurs d'RTL. Peut-être avez-vous vécu la même situation avec cette compagnie. Peut-être connaissez-vous cette compagnie. C'est une compagnie sérieuse. Vous allez nous aider à retrouver peut-être son directeur. Mais je vais vraiment avoir besoin de vous. L'appel sera lancé en direct sur RTL dans quelques instants. Et qu'y aura-t-il derrière, Charlotte ?
On va revenir sur le cas d'Anne-Sophie. Elle a été victime d'un accident de voiture et son assurance refuse de l'indemniser.
Merci beaucoup. Nous allons marquer une petite pause. Et derrière moi, vous entendez. C'est un hommage que nous voulons rendre à ce chanteur que nous adhérons. J'ai nommé Adamo.
Julien Courbet. RTL.
RTL en direct avec l'histoire de Julien et nous lançons l'appel. Alors on rappelle en deux mots l'histoire de ce qui est peut-être une énorme escroquerie, Charlotte.
Il confie son matériel vidéo à un taxi qui disparaît dans la nature avec le matériel.
Allez, on y va. On appelle maintenant cette compagnie et nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire de Julien. C'est parti Céline, vous faites le numéro. Nous appelons, mesdames et messieurs. Et vous allez entendre le nom qui va apparaître dans une seconde, puisque quelqu'un va me répondre, je l'espère, puisque c'est une compagnie de taxi. Donc j'espère que dans une compagnie de taxi, on répond. Car si on ne répond pas dans une compagnie de taxi, il n'y a pas de commande.
Ça a raccroché.
Oh, alors ça, des compagnies de taxi, où vous appelez, où ça raccroche, ça, c'est de plus en plus bizarre ce dossier, mais on est en train d'être conforté dans le fait que c'est peut-être pas une vraie compagnie de taxi. On n'en sait rien. On continue, que se passe-t-il Céline ?
Bernard essaye un second numéro peut-être pour joindre le gérant de la compagnie de taxi.
Là, vous les avez, Julien, en attente cette centrale de taxi. Ils ont répondu en démasqué.
Très bien. Allô ?
Oui, allô ?
Oui, bonjour, je suis à la centrale de réservation de taxi.
Oui, j'écoute.
Bon, bonjour monsieur, je me présente. Je suis Julien Courbet. Au moment où je vous parle, monsieur, nous sommes en direct sur la radio RTL. Je vais vous raconter l'histoire qui est arrivée à un auditeur qui a commandé chez vous un taxi, une voiture. Alors, il a bien sûr la capture d'écran du numéro qu'il a fait, à savoir la centrale de réservation de taxi 01 87 20 00 83, hein, puisque ce n'est pas secret. Et là, on lui a envoyé une voiture banalisée qui lui a piqué son matériel. Alors, est-ce que je pourrais avoir le gérant de la centrale de réservation de taxi pour en parler avec lui ? Alors, il y a peut-être un animal à nourrir derrière. Il a raccroché, le monsieur.
Alors, oui, il a raccroché,
rare sont
Julien.
Les compagnies de taxi où quand vous appelez, vous entendez derrière... Alors, c'était un circuit de Formule 1, un animal, un enfant peut-être ?
Un rhinocéros, je pense.
Je ne sais pas. C'est très bizarre, parce que déjà la façon de répondre pour une compagnie de taxi, ça me paraît bizarre. Donc cette compagnie serait au pavillon Sous-Bois. Alors nous avons peut-être une deuxième personne.
Avec Bernard le gérant de la centrale de réservation.
Alors Bernard Sabat n'a toujours pas compris que personne connaissait
sa voix. Ouais, bougez pas monsieur.
Il change à chaque fois qu'il a quelqu'un, mais peu importe.
Ben, en attendant, je l'ai eu.
Oui, très bien. Allô ? Bonjour. Allô ? La centrale de réservation ?
Oui.
D'accord. Monsieur, je me présente, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Je suis avec un de vos clients qui a eu un gros souci. Il vous a téléphoné donc au numéro de la centrale de réservation de taxi. Voilà. Ah. Vous voyez bien, mesdames et messieurs, que si on se posait la question de savoir s'il s'agissait d'une véritable compagnie de taxi, nous commençons à avoir de sérieux doutes. Donc, nous savons que cette compagnie s'appelle, alors faites très attention à vous tous hein, maintenant qui écoutez, qui êtes sur la région parisienne, il s'agit de la centrale de réservation de taxi qui se trouverait, mais je suppose que c'est une domiciliation, 8 boulevard Roy, 93 320, les pavillons sous bois. Et nous avons le numéro du chauffeur, mais là, nouveau rebondissement dans l'enquête Charlotte, le numéro du chauffeur, qu'est-ce qu'il est devenu ?
Il n'est plus attribué hein, et très rapidement après la course, Julien s'est rendu compte qu'il était injoignable. Une précision, le site sur lequel on trouve ce numéro de centrale de réservation s'appelle taxi-express75.fr. N'y allez pas car dessus il n'y a aucune mention légale qui prouve que la société existe vraiment.
Bon, voilà Julien où nous en sommes. Apparemment, ça pourrait être une belle arnaque. Blanche Grandvilliers nous en dit plus tout de suite.
Oui, peut-être que Julien peut retourner à la police et compléter sa déclaration en indiquant qu'il a essayé plusieurs fois de joindre la centrale de réservation et quand on veut l'appeler, elle nous raccroche au nez. Ça peut être un élément intéressant pour l'enquête.
Bien sûr. Julien, nous allons continuer à avancer. Ce qui est incroyable, c'est que le premier numéro, on va le refaire une nouvelle fois parce que là, monsieur ne va pas nous répondre et nous allons voir si nous allons tomber sur un répondeur puisque normalement, vous avez taxi, G7, merci de patienter ou taxi, ce que vous voulez. Oui, Julien.
La centrale des taxis et chauffeurs parisiens.
Ah, la centrale de taxis et chauffeurs parisien, c'est le nom exact.
La centrale des taxis et chauffeurs parisiens. Quand on appelle ce numéro, on tombe sur un répondeur qui dit « Bienvenue à la centrale des taxis et chauffeurs parisiens ».
Refaites-moi le numéro, s'il vous plaît, Céline. Depuis la salle des négociations, le premier, le 01 87. S'il vous plaît, on y va, on le refait. Céline est en train de brancher un numéro parce que si on est masqué, ça ne répond pas.
Isabelle Germani.
Ah, là, vous avez fait la poste, ma belle. C'est pas grave.
Mauvaise erreur, mauvais numéro. Excusez-moi. En fait, j'ai essayé de rappeler la centrale de réservation. Ça ne fonctionne pas en numéro masqué. Donc, je m'apprête à faire le bon numéro avec le
bien.
Téléphone.
Apprêtez-vous à le faire parce que ça serait.
C'est mieux.
Quitte à faire un numéro, on se l'est toujours dit. On ne s'est jamais menti, Céline, parce qu'on est franc l'un avec l'autre. Autant faire le bon.
Oui,
donc,
c'est mieux.
Céline, pour l'instant, a déjà beaucoup progressé. Avant, c'était des numéros qui n'avaient rien à voir avec l'émission. Maintenant, elle fait des numéros qui ont quelque chose à voir avec l'émission, mais pas le bon dossier.
Alors, attendez, parce que Bernard a une alerte. Quelqu'un en ligne, il vient de reprendre la ligne.
Bernard Sabat, vous ne me décevez jamais, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez commencer. Que
Julien, vous êtes avec le monsieur pour réserver un taxi, vous vouliez un taxi, je l'ai trouvé, allez-y.
Oui, bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Alors, je me présente monsieur, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Il est arrivé une drôle de mésaventure avec votre compagnie il y a quelques jours, monsieur, et j'aimerais pouvoir parler au gérant, s'il vous plaît, ou en tout cas un responsable. Voilà, je sais bien que vous entendez, si vous pouvez couper la radio. Alors, merci. Comme ça, il n'y aura pas d'écho. Julien est en ligne avec vous. Julien, pouvez-vous, s'il vous plaît, rappeler quel numéro vous avez composé il y a quelques jours, en tout cas le nom de quelle société ?
J'ai composé la centrale des taxis et chauffeurs parisiens.
C'est bien le vôtre, monsieur. Allô, allô, monsieur des taxis. Ouais, bon, allez.
Je vous confirme que c'est bien le sien, hein, Julien.
À la foire fouille, tu trouves de tout si t'es malin. Là, c'est juste incroyable. Nous allons trouver du pétrole. La dette énergétique de la France est en train de se combler, mesdames et messieurs. Oui, Bernard.
Juste une chose, je l'avais dit à ce monsieur-là, bonjour, vous êtes bien à la centrale de réservation de taxi. Il m'a dit oui, je lui ai dit écoutez, j'ai besoin d'un taxi maintenant, je pars donc de Neuilly et je veux aller à Porte de la Chapelle. Il m'a dit je peux pas vous prendre tout de suite, mais est-ce que je peux vous rappeler ? J'ai dit non, il faut qu'on décide de l'heure exacte, donc je peux dire que il jouait vraiment le rôle de taxi.
Ouais, enfin bon, de faux taxi peut-être.
Ah, bien sûrement, oui.
Évidemment. De toute façon, c'est vrai que la voiture qui arrive sans avoir l'enseigne de taxi, le macaron. Bon, nous continuons, Julien. Voilà, vous ne vous ferez plus avoir maintenant, Julien, j'espère. Mais on va continuer, on va essayer de se battre pour vous. Mais là, je pense qu'on a un beau réseau bien organisé, qui a monté une fausse boîte, qui essaie de récupérer. Alors, est-ce qu'ils ont des complicités ailleurs ? Je n'en sais rien. La police est sur le coup. Nous allons essayer d'en savoir plus. J'aimerais bien avoir, parce que de temps en temps, je parle aussi comme vous tous là-bas dans la salle des négociations, des témoignages d'auditeurs qui me disent, nous aussi, avec cette compagnie dont vous rappelez le nom, s'il vous plaît, Charlotte.
Alors, elle a plusieurs noms, a priori, puisqu'elle s'appelle la centrale de réservation des taxis et chauffeurs parisiens, mais le site internet sur lequel renvoie ce numéro, c'est taxi-express75.fr.
Bon, dans quelques instants, des rebondissements sur ce dossier. Julien, je vous dis à tout à l'heure. JB, une petite arnaque en temps réel arrive ?
Oui, bien sûr. Nous allons aller à Caen, dans le Calvados. Nous allons parler d'un magistrat qui aurait arnaqué le ministère de la Justice.
Enfin, non, vous non plus, vous ne nous décevez jamais. Hein. C'est en permanence. Il relève toujours le niveau. Un magistrat qui arnaque la justice. L'État qui ne paie pas les loyers. Mais dans quel monde vit-on, mesdames et messieurs ? Nous sommes en direct et nous sommes ensemble jusqu'à 11h30 sur la radio du bonheur. Ayez le sourire, votre équipe est là pour vous aider. À tout de suite, en direct sur RTL. RTL est heureuse de vous annoncer que le grand JB va vous présenter son arnaque en temps réel. C'est le monde à l'envers, mon JB.
C'est ça, nous allons donc à Caen, dans le Calvados, et nous allons donc parler de ce magistrat qui a arnaqué le ministère de la Justice.
Oh, Caen, je sais que là-bas, ça s'est bien passé. Je ne raconterai pas votre intimité, Céline, mais dites-nous quand vous êtes passé à Caen, en camping-car, ce que vous y avez vu.
Mon intimité, c'est qu'à Caen, j'ai mangé de la tergoule. Alors, qu'est-ce que la tergoule ? Déjà, c'est très bon et c'est un dessert qui ressemble au riz au lait. Il faut mettre du riz dans une terrine en terre cuite. On ajoute du sucre, de la cannelle et du lait, évidemment. Et on fait cuire le tout pendant 6 heures au four. C'est excellent.
Alors, attention, JB, racontez-nous ce qu'a fait ce magistrat, parce que là, vraiment, nous sommes tous intrigués.
Alors, l'hebdomadaire La Manche Libre nous informe que ce jeune magistrat originaire de Caen a été jugé devant le tribunal judiciaire. Tout a commencé quand il est sorti major du concours intérieur de l'École nationale de la magistrature. Ce trentenaire s'est aperçu lors de ses premiers stages qu'il n'y avait aucun contrôle des honoraires d'expertise dans les dossiers. Il a donc commencé à faire des demandes d'honoraires à raison de 2 expertises par jour, des expertises pour la plupart fantaisistes. Tout semblait marcher comme sur des roulettes, puisque les juridictions ont réglé 73 000 euros sur les 185 000 euros facturés. Mais un beau jour, une stagiaire greffière en chef a fini par découvrir l'irrégularité des demandes. L'homme a vite été arrêté. Après 4 mois de détention provisoire, le prévenu a presque tout remboursé. Pour autant, il vient aussi décoper de 3 ans de prison, dont 18 avec sursis, probatoire de 2 ans. Il a également, bien sûr, été radié de la profession.
Vous pourriez peut-être vous-même l'être de la profession, puisque je vous l'ai dit, attendez 11 heures pour boire un coup, mon JB. Sinon, vous nous parlez d'irrégularité. Et ça s'entend. Moi, je ne suis pas con, mais je ne veux pas que ça s'entende. C'est tout. Dans quelques instants, nous réécouterons cet exercice périlleux qu'a fait JB, tel le funambule qui, tout d'un coup, au milieu du fil, se met à sentir le vent venir et se dit « Je vais tomber ». Alors, il va tenter de rester debout. C'est ce qu'il a fait et il a été jusqu'au bout. On préviendra dans quelques instants dès que nous aurons retrouvé cette intervention. Bon, en ce qui nous concerne, mes amis, qu'allons-nous faire ? Passer à un autre cas. Pour l'instant, pas de nouveau sur les taxis. Si. Pas de nouveau sur la banque. Du nouveau sur les taxis ?
Oui, Julien. Bon. Je viens d'être rappelé par le chauffeur, carrément, du taxi, qui est soi-disant le gérant. Écoutez bien, le gérant de centrale de réservation de taxi. Il m'a dit pourquoi vous m'avez appelé. Je dis, Julien, vous l'a expliqué. Parce qu'on a un autre Julien qui est cadreur et qui avait du matériel de votre taxi. Et quand je lui ai raconté cette histoire-là, il m'a raccroché au nez.
Alors, je rappelle que vous n'assistez pas à, et n'entendez pas une réunion des alcooliques anonymes. Ce sont des vraies personnes qui essaient de faire leur. Le début de l'intervention était catastrophique, Bernard. Bon, alors donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on décide ? On continue là-dessus ? Vous continuez de les appeler ?
Oui, mais on est mal.
Ouais, je sais bien, on dirait la pub, vous savez. On est mal. Nous allons passer à un autre cas, Charlotte, mais tout ça va se décanter. Hein. Il y aura le Money Time entre 11h et 11h30. Vous me conseillez d'aller vers qui ?
Anne-Sophie, qui a été victime d'un accident.
C'est un très bon choix. Anne-Sophie, bonjour. Ça va, Anne-Sophie ?
Ça va, et vous ?
Vous êtes dans le Nord ?
Oui, toujours.
Et vous êtes dans le Nord ? Enfin, toujours. Je ne vous connais pas. Moi, je ne sais pas depuis combien de temps vous y êtes. Vous êtes né dans le Nord ?
Je suis née dans le Nord.
Et vous êtes également... Enfin, vous êtes à Thivincelles. Vous y êtes passé avec le... Décidément, ce camping-car, je ne sais pas combien il est de kilomètres, mais vous êtes passé à Thivincelles, Céline.
Alors, j'y suis allée, mais en fait, je n'ai pas vu grand-chose. Pour être honnête, je suis allée boire un café chez Anne-Sophie. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il y a des choses à voir ? Elle me dit, il y a beaucoup de verdure, on peut faire des promenades.
Bon, c'est très bien, parfait. Anne-Sophie, c'est déjà pas mal. Mais attention, une heure seulement de promenade, vous le savez, à partir de demain. Anne-Sophie, le 21 février 2020, votre voiture subit un grave sinistre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Anne-Sophie ?
Suite, un incendie qui s'est passé près de mon véhicule. Le véhicule, ma voiture a pris feu.
Oui.
J'ai prévenu directement mon assureur. Il y a les rapports de police, tout a été fait et je n'ai toujours pas de nouvelles de l'assureur.
Parce que hier, sur l'antenne d'RTL, elle nous a raconté cette histoire et ce qui est complètement fou, Blanche de Grandvilliers, et vous, auditeurs, si vous découvrez ce cas, c'est que l'assurance d'Anne-Sophie lui dit « Ok pour vous rembourser, on a vu le sinistre, il n'y a pas de souci. Mais avant de vous rembourser, il faut que vous nous expliquiez d'où vous sortez l'argent pour acheter cette voiture. Donc il faudrait qu'elle trouve les preuves d'achat d'il y a je ne sais combien d'années. Mais enfin, où va-t-on si maintenant il faut prouver d'où vient l'argent quand on achète un truc pour se faire rembourser quand il y a un sinistre, Blanche?
Oui, je crois que la Matmut s'est trompée de métier. Elle n'est pas procureure. Elle est assureure, donc elle doit rembourser. Et d'ailleurs, dans les courriers, Julien, je ne vois aucun justificatif légal de cette demande. Et il se trouve, sauf erreur de ma part, Anne-Sophie pourra nous le dire, qu'en plus, Anne-Sophie a envoyé ces éléments, non? Vous avez envoyé à la Matmut?
Oui, bah, j'ai envoyé mes preuves de virement bancaire pour pouvoir payer le véhicule.
Alors?
Oui, il se trouve qu'elle l'a acheté, vous avez raison, vous pouvez l'avoir acheté 10 ans, 15 ans avant et ne plus rien avoir. Il se trouve que là, elle l'avait acheté un an avant, ce véhicule qui a été accidenté. Ah oui. Donc, elle avait les justificatifs et pourtant, elle les a envoyés à la Matmut qui continue de dire qu'elle a clôturé le dossier et que ça ne lui suffit pas.
Non mais c'est une histoire de dingue. Espérons que c'est un gros bug dans la transmission d'informations parce que sinon, c'est des méthodes qui sont quand même peu cavalières. Mais hier, nous avions une double négociation puisque nous avions Hervé Pouchol, Bernard Sabat qui ont fait feu de tout bois pour avoir un interlocuteur chez la Matmut. Bernard, vous aviez notamment transmis le dossier au niveau du siège à Rouen. Est-ce que vous avez eu du nouveau dans l'après-midi?
Alors, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas eu de nouveau, mais je vous confirme juste que Guillaume Buiron s'occupe du dossier. Il me l'a promis, il l'a écrit, il a demandé du temps pour instruire le dossier. Je sais que l'enjeu est important pour Anne-Sophie. 16 850 euros, c'est pas rien, mais il nous faut encore un petit peu de temps, on va leur faire confiance.
Oui, on va leur faire confiance, mais il faut aller vite parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans ce dossier.
Julien.
D'abord, il y a cette pauvre auditrice qui a un sinistre.
Ouais,
oui. Les experts arrivent et décident de rembourser.
Ouais,
c'est après que ça se gâte. On lui dit, mais d'où sort cet argent?
Ouais,
alors Blanche de Grandvilliers, elle envoie les factures. Elle dit voilà d'où il sort. Et là, on lui dit, mais ça fait rien. Le dossier est quand même clôturé.
Ouais.
Alors Bernard, vous laissez faire ça?
Non, je ne laisse pas faire ça. Je prends le dossier en main. Guillaume m'a promis de me rappeler. Laissez-moi un tout petit peu de temps, Julien, s'il vous plaît.
Avec plaisir. Est-ce que l'on a retrouvé en régie Xavier Kassovitch, notre réalisateur, notre JB, qui tout à l'heure a fait un numéro d'équilibriste quand il a fait son arnaque en temps réel? Ça donne d'ailleurs de l'espoir à tous ceux qui se disent « Non, je ne parle pas assez bien pour être sur une grande radio. » Détrompez-vous. Ça peut être un plus. Nous réécoutons.
Allô. Elle finit par découvrir l'irrégularité.
Là, c'était la troisième tournée, mon JB. Remettez-moi ça, j'ai même pas compris le mot. Allez-y.
Elle finit par découvrir l'irrégularité.
Je ne sais pas ce qui est le plus drôle. Si c'est l'irrégularité ou si c'est... c'est la totale. Et Bernard Sabat qui se moque alors qu'il fait ça 10 fois par jour.
JB.
Nous allons, mesdames et messieurs, vous rappeler qu'il y a 1000 euros à gagner. Et si on les faisait gagner tout de suite, les 1000 euros, Charlotte, après
Allez.
Tout, ça tombe bien, on n'a que ça à faire. C'est parti. C'est la deuxième et la dernière salve pour gagner 1000 euros. Vous n'avez que 5 minutes pour appeler. Peu de temps, donc beaucoup de chance de pouvoir gagner cet argent.
Appelez-nous au 3210, 50 centimes d'euros la minute, ou envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS maximum.
Allez, dépêchez-vous, tout à l'heure, à 11h30, je vous appelle pour vous dire que vous avez gagné 1000 euros que vous pourrez dépenser pendant le confinement en allant sur des sites internet. Donc 3210, tout de suite, 5 minutes ou 74 900 par SMS. Nous allons attaquer d'autres dossiers. Nous attendons des nouvelles de la Poste sur cette personne âgée qui s'est fait hacker, à qui on a envoyé 2000 euros à Londres. Nous continuons cette enquête, mais elles sont très mauvaises sur les taxis. Est-ce qu'il y a une escroquerie ou est-ce que c'est une vraie compagnie de taxi? Pour l'instant, les coups de fil que nous avons sont juste incroyables. Réunion demain pour l'État qui ne paie pas les loyers et nous allons continuer. Dernière demi-heure de l'émission, le Money Time. Que va-t-il se passer, ma chère Charlotte?
On va revenir sur le cas de Nabil. Il est victime d'un compteur trafiqué sur le véhicule qu'il a acheté. 88 000 km, elle en a en fait 180 000.
C'est fabuleux quand elle dit compteur trafiqué, on a entendu. A tout de suite sur RTL en direct, mes amis. Il est là, fidèle au poste. Depuis 21 ans, il n'a pas bougé derrière son micro. Avec son équipe, Blanche Grandvilliers, avocate, Charlotte JB, Céline et notre négociateur, Bernard Sabat. Nous étions sur le point de faire quelque chose, mais je ne me souviens plus de quoi, Charlotte.
Vous allez accueillir Nabil sur l'antenne d'RTL.
Voilà, ça, c'est pas rien d'accueillir Nabil. Alors, est-ce que Nabil est en ligne avec nous?
Oui, bonjour à tous.
Nabil, rappelez-nous ce qui vous arrive, s'il vous plaît.
J'avais acheté un véhicule à 88 000 km, au fin de compte, et il avait plus de 180 000 km.
Voilà, c'est un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Ça fait quand même, on le rappelle, 100 000 km de différence. Et on rappellera dans quelques instants que c'est dû pénale, ma chère Blanche Grandvilliers. Attention pour ce cas exceptionnel qui va démarrer dans quelques instants, juste après les infos. Mais ça ne sera pas tout. Il y aura aussi le retour sur tous les autres cas. C'est ce que l'on appelle le Money Time. 9h30, 11h30, l'adresse du bonheur, c'est RTL. Vous écoutez RTL et à la seconde près, il est 11h. C'est à vous, Alexandre de Saint-Aignan, pour les informations.
Alors que le reconfinement doit entrer en vigueur ce soir, une attaque au couteau a eu lieu ce matin à Nice, dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Le bilan s'est alourdi. 3 morts, plusieurs blessés. Alice Moreno est avec nous, du service police-justice de RTL. Le parquet national antiterroriste a été saisi.
Oui, le caractère terroriste de cette attaque ne fait plus de doute. Vers 9h ce matin, un homme s'en est pris à l'arme blanche à plusieurs personnes à l'intérieur de la basilique Notre-Dame, en plein cœur de la ville. Une femme âgée a été décapitée. Un homme a aussi été tué.
Paris, 17 à Clermont-Ferrand, 18 à Rennes, 20 degrés à Marseille. Les courses à l'hippodrome de Longchamp pour le Quintet cet après-midi. Dominique Cordier vous propose de jouer le 12, l'As, le 9, le 2, le 6, le 10, le 7 et le 13. La dernière minute, c'est le numéro 6, Blue Swan. Il est 11h04 sur RTL et c'est le retour de Julien Courbet.
Merci Alexandre, et pour se détendre un peu, félicitez pour moi la couturière qui a transformé cette nappe de pizzeria en chemise.
Bon, enfin, voyons. C'est une très belle chemise à carreaux, voyons.
Mais, magnifique, mais vous savez quoi, vous m'avez donné envie d'aller me faire une 4 fromages après l'émission. C'est déjà une bonne nouvelle.
C'est déjà pas mal.
Allez, merci Alexandre, il faut bien sourire un peu parce que décidément l'actu est de plus en plus compliquée. Mais votre émission est là entre 9h30 et 11h30 pour essayer de vous redonner le sourire. Mais surtout pour tenter de régler vos problèmes. Nous n'allons pas faire de point info, nous allons tout de suite, pour lui laisser toutes les chances d'avoir son cas résolu, repartir avec notre ami Nabil, qui est à Courcelles-Chaussy. Vous n'allez pas me dire que vous êtes arrêté à Courcelles-Chaussy avec le camping-car, Céline ?
Alors si j'y suis allée, je peux même vous dire qu'à Courcelles-Chaussy, vous pourrez voir des vestiges de villas romaines et également un château, le château d'Urville, il date du 15e siècle.
Et si vous voulez voir des vestiges de poivrons, un jour je vous ferai visiter la salle des négociations. Mais là, Nabil, rappelons que vous êtes infirmier libéral. Je ne me trompe pas, Nabil ?
Non, tout à fait.
J'ai une boule de cristal en fait, Nabil. Vous savez que je n'ai aucune fiche sous les yeux, c'est simplement comme ça par intuition que je découvre qu'un jour, pour réaliser sereinement vos tournées, vous aviez décidé de changer de véhicule. Est-ce que je me trompe ?
Non, c'est une bonne intuition.
Moi, me concentrer, voir que 17 mai 2019, dois acheter voiture d'occasion à professionnel. Je ne vois pas bien le prix dans la boule de cristal, il y a de la buée. Elle était à combien ?
9 790 euros.
Cette acquisition répond à tous les critères, car au-delà d'être relativement récente, cette voiture ne totalise que 88 146 km. Retenez bien ce kilométrage, chers auditeurs, il a de l'importance. 88 146. Vous allez rouler pendant un peu plus d'un an. Et que se passe-t-il le 1er juillet 2020, s'il vous plaît, Nabil ?
C'est le moment de faire la révision du véhicule. Donc je la ramène au garage Citroën pour faire l'entretien.
D'accord.
Et le garage me rappelle en me disant qu'ils ne toucheront pas du tout le véhicule du fait d'une manipulation du calculateur et donc de la baisse du compteur.
Et là, Nabil, nous allons marquer une petite pause car dans une seconde, nous allons apprendre aux auditeurs d'RTL et de cette émission qui est la plus écoutée de France, je le rappelle, entre 9h30 et 11h30, que le garagiste va faire une terrible découverte qui va changer le destin de Nabil, qui n'imaginait pas à ce moment-là qu'il serait sur RTL pour en parler. Vous allez voir que le compteur a été trafiqué. Nous intervenons sur RTL en direct, à tout de suite. RTL. Nabil, nous étions en plein récit il y a quelques instants sur RTL en direct et vous me dites, je ramène après avoir acheté une voiture d'occasion ma voiture chez un mécano, cette voiture je l'avais achetée 9700 euros et là le mécano me dit, cette voiture monsieur Nabil, je n'y toucherai pas. Pourquoi Nabil ?
Ben parce que le calculateur a été trafiqué et que le compteur a été baissé de plus de 100 000 km.
Alors attention, là, Blanche de Grandvilliers, il faut rappeler que Nabil, et c'est un point important dans ce dossier, a acheté cette voiture chez un professionnel. Règle d'or avec Blanche de Grandvilliers.
La règle d'or
sur RTL.
Le fait que ça soit un professionnel change tout à ce dossier.
Oui, tout à fait, parce qu'il connaît le véhicule. Il serait donc possible que lui-même puisse trafiquer un compteur, alors qu'en principe, un particulier n'a pas des compétences pour ça. Donc, pour revenir à votre question, peut-il y avoir escroquerie ? On sait qu'il y a l'élément matériel, c'est-à-dire que le compteur a été trafiqué. On suppose que c'est ce vendeur. Après, il reste à prouver l'élément intentionnel. Et cet élément intentionnel, il pourrait être réuni s'il y a d'autres personnes qui ont été victimes de ce garagiste.
Alors là, il y a des auditeurs qui se disent « Mais c'est marrant parce que ce Nabil, on en a déjà entendu parler sur RTL. » Effectivement, il est déjà passé le 18 septembre. Et pourquoi je ne vous l'ai pas dit au début du récit ? Parce que j'avais oublié. Voilà, tout simplement, je préfère jouer franc jeu avec vous, on ne va pas se mentir. J'avais complètement oublié, mais enfin, ceci étant dit, beaucoup découvrent le cas. Alors, le 18 septembre, nous avions eu un monsieur qui s'appelle... Ce n'est pas facile. D'ailleurs, je n'aurais pas pu faire la petite carrière d'animateur de radio si je m'avais été appelé comme lui, parce que ce n'est pas facile de dire « Bonjour à tous, vous êtes jusqu'à 11h30 avec Corinne Arutyunyan. » C'est le gérant d'Espace Autopièces qui, hors antenne, a dit qu'il rencontrerait notre auditeur dès l'après-midi. Nabil, je vous pose la question. Le rendez-vous a-t-il eu lieu concernant ce trafic de compteurs ?
Le rendez-vous a bien eu lieu quelques jours après.
Oui. Et alors, vous l'avez rencontré, je crois, sur le parking d'un McDo, parce qu'il avait faim, peut-être, ce jour-là.
au McDo, pas que sur le parking. On s'est quand même posé pour discuter autour d'une table.
D'accord. Alors, autour de cette table, Nabil ne veut pas. Nabil aime beaucoup les détails. Alors, Nabil, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Ben, figurez-vous qu'il a pris des frites avec de la mayonnaise. Ok, Nabil. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Qu'il se ferait bien un double cheese, mais qu'il trouvait qu'il y avait trop d'oignons. Super, Nabil. Mais alors, que vous a-t-il dit ? Dites-moi, Nabil, comment ça s'est fini ?
Ça s'est fini en accord entre les deux parties, donc lui et moi, pour un remboursement du véhicule au montant de 8000 euros.
Et ben c'est super. Et moi, je dis bravo à ce monsieur parce que souvent, on tombe sur des gens comme ça avec des compteurs trafiqués. Après, ils partent dans la nature. Lui a assumé, est allé donner rendez-vous sur le parking du McDo et a réglé le problème. Alors, vous aurez la résolution quand, en fait ? Vous les avez déjà récupérés, les 7500 ?
J'ai récupéré 7500 euros déjà qu'il m'a viré sur le compte. Et là, je dois le rencontrer aujourd'hui à 13h30 pour une restitution du véhicule et avec le complément de 500 euros qui manque sur les 8000 euros.
Vous êtes content, Nabil ?
Ah, très content, très content. Un gros problème, une grosse épine sortie du pied.
Super. Vois. Vous continuerez d'écouter RTL, du coup ?
Comme tous les jours.
Eh bien, c'est gentil, mon Nabil. Et je le dis à ce monsieur, ce professionnel, ce monsieur d'Espace Autopièces, et je vous demande tous, que ce soit vous, JB, Bernard, Céline et tous ceux qui sont en plateau, c'est à vous, je parle du gérant, que j'adresse cette chanson.
Il est vraiment...
Tant mieux, c'est super, ça se termine bien. Vous auriez vu Bernard Sabat danser là-dessus. C'était une sorte de danse des années 50 qui n'avait rien à voir avec le rythme. Mais peu importe, ce qui compte, c'est que l'on ait maintenant une résolution et nous sommes ravis. Eh bien, Nabil vous a peut-être donné la voix, auditeur d'RTL. Donnez un petit coup de fil. J'ai un souci, j'appelle RTL. L'équipe est là, vous les connaissez. On négocie, on appelle, on tente des choses et on obtient des résultats. Alors pour Nabil aujourd'hui, c'est peut-être le plus beau jour de l'année.
It's the most wonderful time of the year.
Et pour ceux qui aiment Alain Souchon, c'est aussi le plus beau jour de l'année puisque nous allons l'écouter avec son nouveau titre sur l'antenne d'RTL dans une seconde, Charlotte.
On va revenir sur le cas de Yannick. Il voulait transformer son utilitaire en fourgon aménagé. Maintenant, il attend les papiers d'homologation.
On a bien massacré la chanson. Ah bon, on l'a remis au début. Tout va bien.
Sur la grande place, par un jeu subtil de glace, j'avais son profil de face. Elle a glissé l'argent sous la tasse. S'est levé, je l'ai perdu. J'aurais dû. Presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour, c'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, on a presque poussé la porte, presque passé sous le porche,
Et puis dans la cour fleurie, le mot qu'elle a dit. Sur sa joue j'ai posé mon index. Elle a glissé sa main sous ma veste. Un peu plus et là, tous les deux, tous les deux. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. Je t'ai presque écrit ce matin, presque pris mon courage à deux mains. Te dire qu'à Lille, sur la grande place, j'avais ton profil de face.
C'est presque une émission de radio avec un presque négociateur et une presque avocate et des presque journalistes. Mais on fait notre job, mesdames et messieurs, on le fait avec le cœur. C'est pas vrai, ma Céline, qu'on se bat tous les après-midi?
Mais bien sûr, on est là jusque tard pour les auditeurs d'RTL, évidemment.
Des fois même jusqu'à 15h20.
Ah oui?
Alors inutile de vous dire que ça se bat. Non, franchement, dans une seconde, Charlotte, s'il vous plaît.
On revient sur le cas de Yannick. Il avait un utilitaire qu'il devait transformer en fourgon. Ça a été fait, maintenant il attend les papiers d'homologation.
Allez, attention, dans quelques instants, nous allons attaquer ce cas-là et puis il y aura les 1000 euros à gagner. Mais là, les filles du studio prennent leurs plumes et elles vont défiler devant vous, telles des danseuses du Lido.